Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison de Héros anonymes. Des héros anonymes, on en croise tous les jours, on s'en rend pas compte parce qu'évidemment, ils sont anonymes et on est là pour les faire connaître davantage. Ce sont ces gens qui, tout à coup, ont une idée de comment les choses devraient mieux fonctionner dans notre société et qui décident de prendre action. Vous voyez, de semaine en semaine, oui, on vous présente des gens de grands organismes, mais on vous présente aussi des gens de fondations qui ont été interpellés eux-mêmes par une situation et qui ont décidé de faire la différence. Je m'intéresse de plus en plus à l'innovation sociale qui implique de mettre nos neurones autant de tête que de cœur au service des enjeux et problématiques sociales. Et je me rends compte que c'est en plein ce qu'on fait aux héros anonymes. On reçoit des gens qui offrent une solution concrète à un enjeu ou une problématique sociale. Leur approche est parfois différente, leur vision également, tout comme la manière dont ils s'organisent. Mais tous, ils sont nourris par la même fibre sociale. D'ailleurs, si vous en connaissez de ces héros anonymes, faites-les nous connaître, s'il vous plaît. Notre recherchiste Catherine Bourderon attend votre courriel ou votre appel et nos coordonnées sont sur la page de l'émission à canalm.vuesetvoix.com. Pour les plus jeunes, nous sommes aussi sur Instagram, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je le suis d'ailleurs moi-même, donc faites-moi un coucou. Et puis, parlant de plus jeunes, c'est justement à eux qu'on s'intéresse cette semaine de deux manières complètement différentes. Dans un cas, les jeunes des invités en fait qu'on reçoit cette semaine, les jeunes reçoivent les services et dans l'autre cas, ils les donnent. En première partie, la Fondation des gardiens virtuels est en fait au cœur des médias où les jeunes se tiennent. Hein? Avant, on disait que les travailleurs de rue se tenaient dans les parcs, dans les bars. Bien là, les travailleurs de rue se sont rendus des travailleurs de rue numériques qui se tiennent sur Twitch et sur toutes les plateformes numériques des gamers, donc des joueurs, mais aussi des influenceurs et autres. Donc, la Fondation des gardiens virtuels est là pour eux, pour les soutenir, les jeunes, dans tout, qui vivent des enjeux parfois difficiles, que ce soit de la cyber-violence, de l'intimidation et toute forme de détresse en santé mentale. On a le plaisir de recevoir Jean-Christophe Filosa, qui viendra nous parler un peu de cette initiative vraiment pertinente et originale qu'est la Fondation des gardiens virtuels. En deuxième partie, nous recevons Alain Desbiens, qui est le fondateur de la Fondation Sony. Et là, quand on dit que dans le cadre de cette fondation-là, ce sont les jeunes qui donnent les services, c'est que la Fondation Sony a réussi à jumeler 1200 adolescents de 12 à 17 ans qui sont jumelés en fait avec des personnes âgées, que ce soit pour leur faire bénéficier de leur talent en musique, en poésie, en conte, donc d'animer toute forme de loisirs dans des résidences pour personnes âgées et CHSLD, mais également simplement aller les visiter, leur parler, prendre du temps avec eux. Et c'est un peu le fils d'Alain Desbiens qui n'est malheureusement plus parmi nous, qui avait cette habitude de visiter les personnes âgées, de passer du temps avec eux. C'est vraiment lui aussi une forme d'ange gardien. Et son père a été touché de savoir que son fils avait un aussi grand cœur et il se dédiait pour les personnes âgées qu'il a décidé de créer une fondation pour honorer la mémoire de son fils. On prend une courte pause et on reçoit Jean-Christophe Filosa de la Fondation des gardiens virtuels. Si vous avez des enfants comme moi, moi j'ai deux grands garçons qui sont des adeptes de jeux vidéo et je sais qu'ils fréquentent l'univers des médias autour des jeux vidéo, donc que ce soit Twitch ou Discord. Probablement que si vous êtes peut-être un peu plus âgé comme moi, vous n'entendez parler, vous savez qu'ils sont là, mais vous savez pas exactement de quoi il s'agit. Moi, j'ai appris cette semaine que la Fondation des gardiens virtuels, ben ils sont là. Ce sont des travailleurs de rue numérique, donc ils agissent là où les jeunes sont. Autrefois, ils étaient dans les bars, dans les parcs. Alors maintenant, les travailleurs de rue numérique sont vraiment là où les jeunes sont pour les aider à travers différents enjeux qu'ils vivent au quotidien. On reçoit Jean-Christophe Filosa. Bonjour, Jean-Christophe.
Bonjour, bon vendredi.
Donc, des travailleurs de rue numérique, ça vient d'où cette expression?
Nous, ça vient à la base. Moi, je suis un ancien travailleur de rue, mm-hmm. donc à Montréal, il y a très longtemps. Puis quand on a eu l'idée de popper, justement, comment rejoindre nos jeunes aujourd'hui, parce que c'est un défi, surtout après la pandémie,
oui.
On a amené le principe qu'on allait aller où ils sont dans le numérique.
Oui.
Vous avez nommé des chaînes, Twitch, Discord... Les jeunes, en général, vont passer 60 % de leur temps quand ils sont justement sur le net à regarder des vidéos ou à écouter des diffuseurs, des choses comme ça. Donc, nous, on a rejoint 60 diffuseurs, ce qui fait une capacité d'environ 180 000 jeunes à travers le Québec, donc l'équivalent des cégeps, en fin de compte, qui les écoutent.
Mm-hmm.
De 7h à 10h, moi, j'ai des personnes, donc des intervenants, qui sont là pour justement rentrer en clavardage avec les jeunes, pour faire de l'écoute active et aussi du référencement, peu importe la région dont ils viennent au Québec.
Et on parle de 7 à 10 heures le soir, évidemment.
Oui, de 7 à 10 heures. On vise les 14-25 ans. Mm-hmm. On a eu des cas beaucoup plus jeunes, de 8-9 ans aussi.
Ah oui, quand même.
Puis on a eu aussi des gens beaucoup plus vieux. Donc, on ferme la porte à personne. On est là pour écouter, référer. Pour les petits et les grands problèmes, que ce soit une chicane de couple, des parents qui te dérangent, ou si tu as des idées, ou ça arrive, oui, ou si tu as des idées noires ou des choses plus difficiles comme la violence conjugale, la cyberintimidation ou des choses comme ça, on écoute, on est là.
Est-ce que vous êtes l'équivalent, puis là, je ne veux pas faire de grossière généralisation, mais de la Fondation Jeunes en tête ou SOS Jeunes, qui est plus dans les médias peut-être plus traditionnels, mais vous êtes un service d'écoute, mais vraiment plus au niveau du clavardage dans l'univers numérique des jeunes?
Nous, on est en amont, justement, de ces services-là, dans le sens qu'on fait des milliers d'heures avec les jeunes en ligne. Mes intervenants ont le droit d'avoir certaines discussions, de la musique ou des choses comme ça, pour que les jeunes sachent qu'on n'est pas des robots.
Ouais,
donc, nous, les jeunes, en fin de compte, c'est pas complètement qu'ils vont être en crise. On est en amont, souvent, des crises. Alors que tel jeune ou d'autres organismes qui sont excellents, eux ont un impact sur 75 % de filles et environ 20 % de garçons. Nous, c'est 65 % de garçons qui nous rejoignent, puis 21 % de la clientèle LGBT. Donc, nous, on est vraiment en amont de la problématique. Les jeunes peuvent revenir. On est vraiment plus comme un service de rue. On n'est pas un service d'urgence, alors que d'autres services, eux, sont là quand les jeunes vont vraiment mal aller, comme certains de nos collègues, où là, ils vont les interpeller, ils vont avoir une discussion avec eux, des choses comme ça. Nous, les jeunes peuvent revenir 2-3 fois parce qu'on s'entend qu'une des problématiques qu'ils ont, c'est qu'une fois qu'on les a écoutés, on les a référés, le service de la santé est débordé. Donc là, ils nous reviennent en disant « Ouais, mais mon prochain rendez-vous, il est dans 6 mois, dans un an,
Qu'est-ce que je fais en attendant? »
Qu'est-ce que je fais? Donc nous, on essaye de trouver le meilleur endroit pour les référer une deuxième ou une troisième fois. Donc nous, on est vraiment dans l'accompagnement à ce moment-là.
Juste pour qu'on comprenne bien ce que c'est, on parle de travail de rue numérique, mais le travail de rue, là, auparavant, j'entends beaucoup que c'est une question de créer une confiance et de créer une relation avant toute chose.
Bien, c'est pour ça qu'on est 7 soirs semaine. Moi, j'ai toujours 4 intervenants. C'est pour ça qu'on est aussi sur ces réseaux-là, que ce soit le streamer qui nous connaisse, que ce soit le modérateur. Les jeunes sont habitués qu'on soit là. Si jamais un soir, il arrive un bris de service ou n'importe quoi, ils vont le remarquer, ils vont nous le dire. C'est sécurisant d'avoir une balise en ligne. Puis la Fondation des gardiens virtuels, à travers ce programme-là, est une balise en ligne. Donc, on est ouvert à longueur d'année. On était là dans le temps des fêtes. Bravo à mon équipe pour ça. Mm-hmm. Puis il y a justement des jeunes qui étaient tout contents de se dire, ben écoute, il y a un service qui est ouvert même le soir de Noël ou le soir du jour de l'an alors que je viens de me chicaner avec ma blonde ou n'importe quoi. Donc, c'est important d'être là, comme les travailleurs de voie, en fin de compte, oui. À la base.
Et juste pour que peut-être les gens qui sont moins familiers avec les plateformes de streaming et autres, peut-être juste nous décrire un petit peu l'environnement dans lequel vous intervenez.
Disons que vous, vous êtes grosse lunette et moi, je suis petite lunette.
D'accord. Ça serait nos surnoms.
Nos surnoms, okay. nos nicknames, disons. Ouais. Okay. Et vous aimez bien écouter une fille qui, elle, parle régulièrement de ses hamsters. Comment va habiller sa hamster à Noël, puis des choses comme ça.
Là, on parle au sens propre, au sens pas propre, des hamsters qui nous tournent en tête.
Non. Puis, les jeunes peuvent passer des heures à avoir des discussions sur ça ou sur la musique ou d'autres sujets dans un chat de discussion. Mm. À un moment donné, nous, on a une annonce qui apparaît genre aux 15 minutes qui dit, écoute, si tu as un défi personnel ou une problématique, si tu veux en parler, tu peux rentrer en contact avec nos travailleurs de rue numérique. Donc, donc en fin de compte, vous interpellez un de mes intervenants, vous rentrez dans un salon privé, numérique, on s'entend, et vous commencez un clavardage avec nous.
Donc là, je commence à parler avec petite lunette.
C'est ça, vous commencez à parler. On va y arriver, on est bon, même si c'est vendredi. Et petite lunette va prendre le temps de vous écouter. Cerner aussi un petit peu la problématique, parce qu'on s'entend que vous pouvez arriver avec beaucoup de choses en même temps.
Oui.
Ma première abord aussi, c'est de bien vous écouter. Voir aussi c'est quoi vos forces, parce qu'on s'entend que souvent on arrive avec nos problématiques, mais les jeunes ont leurs propres forces. Nous, on est beaucoup dans le renforcement positif du jeune. Et après, si on est capable, si le besoin est là aussi, est-ce que le jeune a besoin d'un référencement à tel endroit? Donc lui, on lui donne les meilleures adresses, les meilleurs endroits. Puis il peut faire un retour avec nous pour dire oui, ça marchait ou pas, ou continuer sa vie. Donc,
Quand vous dites vous vous tablez sur les forces, comment ça peut s'observer, par exemple, à l'écrit?
Bien, à l'écrit, je veux dire, c'est comme quand on fait une intervention en présentiel. C'est d'être capable de dire à la personne que, premièrement, il y a toujours de l'espoir. On s'entend, là, on travaille sur l'espoir.
Ouais.
Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution, puis des choses comme ça. Parce que dans la vie, surtout quand entre 14 et 25 ans, tu as la vie devant toi. Donc, c'est de renforcer ça à la base. C'est de comprendre aussi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'aider dans son environnement si c'est un tout jeune? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il peut en parler à ses parents? Comment il peut en parler à ses parents? Donc, on va aller vers ça aussi. Après ça, si c'est pas dans son environnement potentiel ou il se sent pas bien dans ça, ben c'est de trouver des présences parce qu'on s'entend qu'on a des collègues fantastiques partout dans la province, des gens qui sont de cœur, que ce soit les CIG du Québec, les centres d'amitié d'autochtones, que je pourrais en nommer de tout plein, là, qui travaillent sur le plancher, qui font un travail extraordinaire avec ces jeunes-là. Mm. Mais parfois, il faut les guider.
Oui. Et donc, à ce moment-là, votre annonce passe régulièrement, qui allume un petit peu la perspective. Et quand ils vous abordent, est-ce que... C'est quoi, habituellement, une phrase typique là, quand ils commencent à chatter?
Bien, souvent, ça peut être « Est-ce que je suis à bonne place? » Ah, ben ma journée n'a pas été cool. Je ne file pas bien. Est-ce que tu es un robot? »
Oui.
Donc, tu sais, il y a tout ce questionnement-là. Puis, c'est d'amener le jeune à parler de sa problématique ou sa situation qui peut être temporaire aussi. Là. Oui, on a des cas qui sont des idées noires qui peuvent être des gens problématiques suicidaires, violence conjugale, solitude. Actuellement, on a une grande problématique de solitude chez nos jeunes. Donc, tu sais, c'est un peu tout ça. Puis après, une fois qu'on a cerné, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout en même temps, sur une des problématiques, on essaye de voir un petit peu c'est quoi les pistes de solution ou d'aide que peut avoir le jeune.
Ça, quand vous parlez de solitude... Moi, ça m'étonne parce que je me dis souvent quand ils sont sur des plateformes comme ça, ils jouent en ligne avec d'autres, ou bien c'est seulement qu'ils vont consommer des contenus sans nécessairement être en contact. Parce que c'est deux types de...
Le net, c'est juste un miroir de la société. Si tu es seul chez toi, même si tu as des parents, mais toi, dans ta vie où t'es rendu...
Tu te sens seul.
Ce qui est bien dans le milieu numérique, c'est qu'il y a des gens qui se sentent seuls dans la vie, mais se sentent accompagnés dans le numérique.
Oui.
Ça, c'est bien. Il y a des belles forces à l'intérieur du numérique. Mais il y a des gens que c'est, le mal de vivre est trop fort, puis la solitude va être là aussi. Donc,
Et Il y a tous les enjeux de cyber-intimidation. Mmh. Est-ce que, justement, ça peut arriver que le jeune est en ligne comme ça et se fait quasiment live, là, mais vraiment en direct, peut se faire harceler par d'autres personnes? Donc, ça, est-ce que c'est une porte directe où on vient de vivre, par exemple, une insulte? Donc là, on cherche quelqu'un pour en parler?
Oui. C'est pour ça qu'on a un bel impact auprès de nos amis, nos alliés de la communauté LGBT. Il y a beaucoup de jeunes de cette communauté-là qui nous viennent sous cet angle-là. Ouais. Ils ont vécu des moments difficiles en ligne, dernièrement ou de façon quotidienne, ou même en milieu scolaire. Donc là, ça devient une soupape, en fin de compte.
Mais c'est quoi? C'est à cause de leurs photos ou de leur nickname ou il y a quelqu'un qui intervient comme ça juste pour dire des paroles dégradantes?
Bien, on s'entend que c'est le suivi de l'école souvent. Hein? Ils se connaissent en milieu scolaire, puis c'est les mêmes qui les connaissent en milieu scolaire, qui n'osent pas le faire en milieu scolaire.
Ah, c'est
qui,
terrible.
Là, à cause de l'écran, justement, du côté anonyme,
de l'anonymat. Ouais.
Le font, donc, en se pensant intouchable.
Ben c'est ça un peu qu'on avait la chance, au moins à notre époque, si on subissait du harcèlement, d'avoir la paix rendue chez nous. Je vous propose qu'on prenne une petite pause, Jean-Christophe, puis on va poursuivre notre discussion après. Mieux connaître vos services, comment vous intervenez.
Au plaisir.
Merci. Retour en studio avec notre invité, Jean-Christophe Filosa. Il est directeur du programme de travailleurs de rue numérique à l'organisme Fondation des gardiens virtuels. Et on discutait pendant la pause que c'est une initiative à peu près unique dans la francophonie. C'est extraordinaire, ça. Quelle belle... On parlait d'innovation sociale en introduction, c'en est une.
Ça fait partie des innovations sociales du Québec, là. C'est important. On a trouvé quelque chose qui nous ressemble un petit peu en Autriche, mais ils n'ont pas exactement la même approche. Le fait qu'on est comme les travailleurs de rue de base puis qu'on est au quotidien avec les jeunes fait que notre approche est relativement nouvelle. Puis ça fait aussi que ça donne confiance aux jeunes garçons aussi, ça qui est important. C'est que ça a permis que ce soit la clientèle LGBT ou les jeunes hommes, comme le fait qu'on est avec eux au quotidien, puis pas dans le milieu scolaire. Tu sais, on sort là, on est en dehors de ces heures-là aussi, fait qu'on peut répondre au stress qu'ils ont vécu dans la journée.
Oui, parce que vous avez dit que vous touchez un grand pourcentage de garçons et ça m'a étonnée en lisant ça parce que souvent, sur les lignes d'écoute, c'est souvent davantage un public plus féminin ou qui a tendance à se confier et on connaît malheureusement les pourcentages de détresse, de suicide qui sont plus grands chez les garçons. Comment vous avez développé cette expertise-là? Est-ce que c'est parce que les jeunes garçons sont plus en ligne, sur des plateformes de streaming que les filles? Comment vous expliquez ce succès auprès des garçons?
Bien, actuellement, sur le streaming, maintenant, c'est presque 50 % au féminin, 50 % au masculin.
Ah oui,
d'accord. Ça a changé, ça aussi, je vous dirais. Mais je vous dirais que c'est sécurisant pour un jeune homme de pouvoir discuter sans se sentir jugé. Puis à travers le clavardage, il y a déjà ça qui est important. Deuxièmement, ils ont un certain contrôle sur la discussion. Ça va à la vitesse qu'ils veulent. Parce que souvent, les interventions sont beaucoup plus longues en ligne qu'en présentiel aussi. Là. Donc, ce qui laisse le temps de respirer, puis des choses comme ça. Puis tout ça interpelle plus nos jeunes hommes à ce niveau-là.
Puis je sais aussi que chez cette génération-là, le contact avec le téléphone peut être un petit peu rébarbatif. J'ai un fils de 21 ans, entre autres, donc en plein dans votre groupe cible au niveau de l'âge, qui m'a déjà dit, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes que pour eux, juste prendre le téléphone pour appeler une pizza... C'est gênant. Et je comprenais pas. Éclairez-nous. Qu'est-ce qui leur fait si peur avec le téléphone?
Actuellement, surtout avec la pandémie, je pense que les gens se sont renfermés sur eux-mêmes. Puis, à partir de là, on est plus dans l'instantané. On le voit dans les couples maintenant. Les couples se font, se défont. Beaucoup de choses dans notre société actuellement est accessible rapidement. Donc, le clavardage aussi est là. Alors que si on prend un téléphone, il faut prendre le temps d'expliquer. Mm. Les messages ne passent pas comme on veut. Les messages passent beaucoup plus clairement à travers un clavardage. Il y a un peu de tout ça aussi. Il y a l'instantané.
Oui.
Il y a le fait qu'ils ont un contrôle là-dessus. À la limite, on pourrait vendre des téléphones sans téléphone, juste avec le clavardage. Puis il y a plein de monde qui en achèterait.
Oui. Ben d'ailleurs, on voit un certain retour chez les jeunes au flip, mais là, ils ne peuvent pas vraiment clavarder sur ces appareils-là. Mais de toute façon, est-ce qu'ils le font plus sur leur cellulaire ou via leur ordinateur? Parce que quand ils jouent en ligne, c'est probablement plus via l'ordinateur.
Ben on a des jeunes de toutes les, qui viennent, qui sont soit avec leur téléphone, soit avec leur ordinateur. Donc, je vous dirais que c'est 50-50 à ce niveau-là. Donc.
D'accord. Qui sont vos intervenants en ligne?
Nous, ce qu'on est allé chercher, on a des gens qui viennent du milieu de la santé.
Mm-hmm.
On a aussi des jeunes étudiants, étudiantes.
Ah oui.
En psychologie, deuxième, troisième année.
Bravo.
Donc, le défi, en fin de compte, c'est les former au numérique.
Oui.
Parce que c'est pas toujours bien facile de transférer ce qu'on apprend au présentiel et le mettre dans le numérique.
Oui.
Tu sais, il y a les emojis, il y a la longueur de l'intervention, il y a la façon dont le texte y est fait, l'interprétation du texte. Non, on est vraiment en train de débroussailler actuellement tout un terrain à ce niveau-là, ce qui est un beau défi pour mon équipe en général.
Absolument.
J'ai une dizaine d'intervenants.
Une dizaine d'intervenants. Mmh. Et qui finance la Fondation des gardiens virtuels?
En partie, le ministère de la Santé.
Mmh.
Une autre partie, c'est le privé. Puis, dernièrement, on a organisé justement une levée de fonds avec une soixantaine de diffuseurs. On a amassé 52 000 $. Donc, c'est un tiers, je vous dirais actuellement. Mais c'est comme tout le monde, c'est un grand défi. Donc,
oui.
Au quotidien, c'est une bataille. Donc.
Et si on avait, peut-être s'il y a des parents à l'écoute ou des grands-parents à l'écoute, bon, de un, vous dites comprendre le numérique, parce qu'il y a beaucoup déjà de parents qui ne comprennent pas nécessairement les codes du numérique, juste qu'on soit dans une conversation synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire vraiment en même temps. Et de réussir à comprendre que notre jeune va pas bien. Donc, c'est une question un peu large que je vous pose, là, mais quel conseil on pourrait donner aux parents, autant sur la communication numérique que la communication tout court?
Bien déjà, la pire erreur, c'est d'arrêter la communication tout court.
Mm.
Souvent, on se dit, le jeune, il ne me comprend pas. Mais le jeune,
il se dit ça aussi. Hein?
C'est ça que j'allais dire. Le jeune se dit ça aussi. Tu sais.
Puis l'entendez, j'imagine, ça doit être une des interventions.
C'est un
Mon
des classiques.
Mon père ne comprend rien, maman.
Ou parfois, ça va même plus loin. Mon grand frère ne comprend pas ce que je vis, alors que lui-même est dans le numérique. Donc, ça peut aller loin. Là. Donc, l'important, c'est de garder la communication. Puis, d'être intéressé à ce que le jeune fait.
Oui.
Le jeune, pour lui, le numérique, c'est juste un suivi du milieu scolaire. C'est un milieu de sa vie. Puis parfois, il se fait des amis que vous n'allez jamais rencontrer, mais qui sont aussi importants que ceux qu'il rencontre à l'école. Donc, moi, à la base, la communication reste le fil d'Ariane qui fait la différence auprès de nos jeunes. Puis, le jeune, il ne fait pas méchamment. Parfois aussi, quand vous voyez qu'il vous échappe, là, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie présentielle qui lui échappe aussi. Il y a un besoin où il n'est pas compris.
Mm.
Prenez le temps de prendre une marche avec lui.
Ça, c'est si on est capable de les sortir de leur chambre.
OK. Minimalement, quand on est autour de la table, lâchez votre téléphone.
De donner l'exemple, ouais.
Lâchez aussi la télévision. Sérieux, ça tue les repas de famille. Là.
Ouais.
Juste ça, à la base. Puis vous l'avez dit, puis c'est très important, les jeunes marchent par mimétisme. Si quand le matin, il se lève, la première chose qu'il voit, c'est papa, maman en train de texter, il va faire quoi? Il va faire la même chose.
C'est de commencer tôt.
C'est ça.
Tôt, j'imagine, parce que si on garde ce rituel-là d'avoir des soupes en famille, puis c'est important, il y a plus de chances que ça perdure dans le temps, plutôt que si tout le monde, finalement, mange de leur côté. Je sais que pour moi, c'était très clair que tu ne vas pas souper dans ta chambre avec ton repas. On passe au moins le 15 minutes, le temps que tu avales ton repas à toute vitesse.
C'est un minimum vital. N'ayez pas peur de faire un déjeuner avec votre fils ou votre fille. T'sais, continuez malgré tout à offrir ça. Donc, même si vous amenez le repas dans le sous-sol où votre fils y est caché, il va être content à ce moment-là d'avoir son déjeuner. Puis prenez le temps de lui dire « Qu'est-ce que tu fais? » Puis ça fait la différence.
Oui. Puis, est-ce qu'il y a des consignes vraiment au niveau de la communication numérique? Parce que moi, j'ai des grands-enfants maintenant. Souvent, je leur envoie des trucs sur Instagram, des trucs que je trouve drôles ou des trucs musicaux, des comparaisons de générations. Et je remarque que ça permet justement de garder le contact. Souvent, je leur demande comment ils vont, ils me répondent bien. Mais je me dis au moins, peut-être si ça va pas bien, le fait de garder le contact... Est-ce que c'est un peu dans cet esprit-là?
C'est important. Même si vous dites que vous êtes dépassé, que vous êtes vieux, tout ce que tu veux, ou que c'était pas drôle, pas grave, il a pris le temps de regarder ce que vous avez envoyé. Ça fait partie de la communication qu'il faut garder.
Oui, puis même à la limite, il dit bon, encore pas les vidéos de chat de ma mère.
C'est ça.
Il reste qu'il y a un certain contact.
Puis ils vont vieillir. Tu sais, au moment où c'est qu'il est en réflexion, puis il aime pas ça, ou ça le dérange, ou il est un petit peu plus seul. Ce que vous gagnez là, c'est des graines pour demain.
Ouais.
Peut-être qu'à 17 ans, il va être un peu plus près. Il va dire, ah, je suis encore en communication avec ma mère. Elle m'a compris, elle m'a fait rigoler ou elle n'a pas compris, mais elle était là. Toujours être là, ça, c'est important.
Vous avez raison. Des fois, mon fils me raconte des trucs que je ne me rappelais pas, qu'il se souvenait de son enfance. Et je fais, ah, wow! Mais souvent, justement, peut-être un conseil, quand vous dites aux parents, écoutez, je pense que tous les parents l'écoutent. Des fois, notre jeune nous parle de sa partie en ligne et ouf, on comprend rien. Mais moi, je me force à garder les yeux grands ouverts et même si je comprends pas, à poser des questions juste pour y démontrer un intérêt.
Bien, pour lui, c'est aussi important que la game de hockey que vous allez écouter. Ce qu'il va écouter en ligne, ça a un impact et encore plus que vous. Parce que vous, vous êtes assis devant votre télévision à l'écouter le match, vous ne pouvez pas interagir. Votre enfant interagit avec les gens de l'autre côté souvent. Donc oui, c'est important de valoriser ça parce que c'est une forme de communication qui est aussi importante que dans le réel. Tu sais, en fin de compte, tout ça, c'est un symptôme du réel, en fin de compte.
Oui. Donc, de 19h à 20h, j'imagine, si vous aviez plus de financement,
jusqu'à
vous pouviez...
20, non, on est de 7h jusqu'à 10h.
22h.
Oui.
Mais j'imagine que vous gagneriez à aller chercher quelques heures de plus, hein?
On aimerait ça. Surtout actuellement, on est obligé de couper. Actuellement, on avait 4 intervenants par soir. On va tomber à 3 intervenants par soir. Alors qu'on devrait tomber à 5 intervenants par soir.
Est-ce que vous réussissez à faire une priorisation quand vous
Oui, actuellement, ça va être notre nouveau défi. Là. On va prioriser, on en réfléchit autrement, justement pour ne pas perdre le fil avec les jeunes puis être encore disponible. Donc.
Bien, je vous souhaite de tout cœur que les instances à l'écoute vous entendent pour que vous puissiez être encore davantage présent pour nous aider à garder le contact avec les jeunes. Fondation des gardiens virtuels, vous êtes présent sur toutes les plateformes pour les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup, Jean-Christophe Filosa, directeur du programme de travailleurs de rue numérique à la Fondation des gardiens virtuels.
Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Si vous avez l'habitude d'écouter Canal M, vous savez que j'ai longtemps animé une émission qui s'appelle Au fil du temps, qui portait sur la création de liens intergénérationnels. Alors, c'est sûr que lorsqu'on a entendu parler de la Fondation Sony, qui a finalement un peu la même mission, on a tout de suite eu envie de rencontrer son fondateur, c'est Alain Desbiens, donc le papa de Sony qui a inspiré cette fondation, et on l'a avec nous au bout du fil. Bonjour Alain.
Bonjour.
C'est toute une histoire qu'on va raconter à nos auditeurs dans quelques instants.
Oui, oui, exact.
Bon, quand on parle de liens intergénérationnels, qu'est-ce que la Fondation fait exactement?
Bien, écoute, nous autres, on recrute des bénévoles entre 12 et 17 ans pour aller accompagner les services de loisirs dans les CHSLD et autres établissements là, pour aînés.
Quand on parle d'accompagnement, de quelle sorte d'accompagnement il s'agit?
C'est dans le loisir. On va servir aussi des talents des jeunes. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui font toutes sortes de choses. Fait qu'on sert de leurs talents, puis on amène les jeunes là, à donner de leur temps.
Puis c'est quoi? C'est comme un petit spectacle qu'ils organisent en soirée ou dans l'après-midi quand ils n'ont pas de cours?
Ben là, c'est plus que ça. Ça va être, écoute, ils vont les amener, surtout en période estivale. Mm-hmm. Ils vont les amener dehors. Tu sais, les aînés, ils étaient rendus, il y avait des bénévoles de 80 ans, tu sais. c'est aussi vieux que ça. C'était pas facile de les sortir. Là, c'est sûr que ça l'a amené un vent de fraîcheur de ça. Les jeunes peuvent les sortir. C'est des jeux de société. Tu sais, là, un aîné en CHSLD ou en établissement va parler souvent, on parle d'en moyenne, 1 minute et demie par jour avec quelqu'un de discussion.
Oui, j'ai lu ça dans le dossier de recherche. C'était 1 minute et demie par jour à quelqu'un.
Oui, oui. Donc, quand les jeunes s'assient avec puis qu'ils prennent le temps, je peux dire que ça change vraiment tout là, le dynamisme.
Et ces jeunes-là, comment ils entendent parler de la Fondation et de ce que vous proposez?
Ben, nous autres, on a des réseaux, puis on a des bons partenaires aussi. Tu sais, nos publicités passent dans les CIUSSS, parce qu'on a 20 ententes présentement avec les 6 CIUSSS au Québec, là, qu'on a signé pour amener des bénévoles partout. Donc, eux autres passent ça dans le réseau, c'est large, hein, ils ont des beaux grands réseaux. Puis on a aussi de la publicité dans les écoles, maisons de jeunes, ainsi de suite, là.
Mais je pense que ça vaudrait la peine de faire un lien avec notre premier invité, la Fondation des gardiens virtuels. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Non.
Ah, on va vous mettre en contact.
Pourquoi pas?
Ben eux, ce sont des travailleurs de rue numérique. Donc, ils sont présents dans les plateformes que fréquentent les jeunes. Donc, peut-être...
Bien sûr.
Ben oui, c'est ça. Souvent, c'est quand on aide d'autres personnes que ça nous fait sentir bien nous-mêmes.
Écoute, cette fondation-là, j'ai toujours dit, moi, si on se rassemble, si on fait, on peut faire des grandes choses. C'est vraiment là. Quand quelqu'un comme toi me dit, on aurait peut-être quelqu'un à te proposer, c'est sûr que j'aimerais ça. J'adorerais ça.
Bien, c'est sûr, tu sais, je vous sens tout votre engagement dans cette fondation-là. Puis, il y a une raison très simple. Là, c'est, vous l'avez créé, je pense, en mémoire de votre fils, Sonny.
Exactement. C'est parti d'un événement tragique qui, aujourd'hui, bien, écoute, m'a amené, moi aussi, à voir des choses. Tu sais, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que aujourd'hui, je me trouve même. C'est dur à dire, c'est drôle à dire, hein, mais je me trouve un peu chanceux malgré tout. Tu sais, Sonny m'a amené quelque chose de grand et puis m'a fait voir des choses. C'est tout cet ensemble de choses-là qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, j'ai réussi à passer une belle vie. T'sais.
Oui, parce que je comprends que Sonny n'est plus avec nous maintenant.
Non. Oui. Ça fait déjà... ça passe vite, hein? Ça fait déjà 17 ans que ça n'est plus là. Puis, mais quand même, on a avancé beaucoup. C'est surtout ça. Puis c'est au nom de Sonny. Moi, c'est la fierté de ça. De dire, Sonny, son nom, j'aimerais qu'il reste.
Oui.
Puis je pense qu'on va réussir à faire de quoi. Parce que comme je vous dis, on a des grands partenaires. On fait des belles choses.
Mais juste un peu pour nous rassurer, là, je pense aux auditeurs, votre fils, il n'y avait pas d'enjeu de santé mentale là, quand
Non, aucun enjeu. Sonny s'est noyé. Il était dans une fête avec des jeunes près de la rivière Shawinigan. Puis il est parti chercher du bois. Mais écoute bien, les jeunes avaient pris des pilules pour la malformation cardiaque. Quelques-uns d'eux autres. Moi, c'est ce que j'ai su par après du légiste. Puis une jeune, une de ses amies m'a raconté qu'elle était dans le parc. Elle a tombé sans connaissance, mais elle était dans le parc. Sonny a dû tomber sans connaissance dans l'eau. Il s'est pas fait mal, là. Le légiste m'a dit qu'il avait pas les mains crispées ou les dents serrées ou quoi que ce soit. Il est parti. Tu sais, c'est dommage, hein.
Ouais.
C'est comme ça.
14 ans.
C'est beaucoup d'acceptation dans tout ça, mais la vie, c'est de l'acceptation. Hein. Je parle, moi, j'accepte ça, mais les aînés, si vous voyez tout ce qu'ils acceptent, moi, j'ai, depuis le temps que je suis là, je vois, la vie, c'est de l'acceptation, finalement.
Vous me donnez des frissons, Alain, c'est tellement profond ce que vous dites.
c'est la réalité.
Donc, ce que j'ai compris, c'est que, bon, vous dites que Sonny a fait de vous un être meilleur, mais vous avez appris des choses sur votre fils que vous ne saviez pas.
Oui. Alors que de son décès, écoute, moi, j'allais chercher 4 jours.
Aïe.
Moi, toutes les gens, j'avais une photo, puis j'arrêtais tout le monde. Tu sais, quand tu as vu mon garçon, puis partout, là, tu sais, on parle du grand Shawinigan, c'est Shawinigan, le grand-mère Shawinigan. C'est quand même un grand territoire. Puis chaque personne que puis je montrais à Fourbe, il connaissait tout.
Ah oui?
Sonny était partout, Sonny était... Puis il y avait tous des bonbons pour lui. Mmh. Écoute bien, un moment donné, j'ai vu sur le bord du marché municipal, mettons, à Géonigan, un matin de bonheur, il y a un individu qui est là, il est couffé à terre, il est un peu un junkie, là. Et puis, malgré tout, je me suis demandé à le voir pour lui demander. T'sais, normalement, je ne l'aurais même pas approché, il me faisait peur un peu. Mais il connaissait Sonny, il disait que Sonny a de la jaser avec.
Ah oui.
T'sais, Sonny m'a appris que l'apparence, tout ça, c'est donc pas important.
Lui, il voyait le cœur des gens directement.
Exactement. Puis à la joie, moi, j'avais un CHSLD près de chez moi. Puis je le voyais là souvent, puis je pensais qu'il dérangeait. Tu sais. Puis finalement, quand il est décédé, ben, les gens m'ont dit non, il nous comptait des jokes. Il venait nous rendre des services.
Ah oui.
Il fait des petites choses comme ça. Tu sais, il n'a pas fait rien d'extraordinaire, là. Mais il a fait des petites choses que moi, j'ai compris que ça venait du cœur. Finalement, c'est un bon garçon, Sonny. Il a une petite vie courte, c'est dommage, mais il va avoir amené quand même quelque chose. Puis rien que de m'avoir changé moi, c'est déjà ça, mais je pense qu'il va avoir apporté quand même plus que ça, parce que beaucoup de gens là, ont reçu des services de jeunes, un peu comme lui.
Oui. C'est un grand impact, une courte vie, mais un grand impact.
Exactement. Puis là, je travaille pour qu'éventuellement, parce que moi, je vieillis, puis que ça puisse passer dans les mains d'un autre éventuellement. Fait que je travaille là-dessus, là, présentement, là, avec des gens pour passer la main éventuellement. Là, je suis encore là pour un bout.
Mm-hmm.
Mais quand même, j'y pense pareil, parce qu'on n'est pas une grosse équipe.
Ouais,
on est deux.
Vous êtes deux, OK. Donc, il y a vous et une personne qui... Fait du jumelage ou...
En fait, elle s'occupe des communications avec les jeunes, les Suisses. Ça fait le pont là, entre les deux.
Mm-hmm.
Et puis, elle va chercher des commandites, des choses comme ça. Moi, je fais plus qu'est-ce qui est gouvernemental, aller chercher des commanditaires majeurs, des choses comme ça. Là, puis, développer aussi, parce qu'on a des programmes. Là. On a le programme Sony Action. Mais on a d'autres choses qu'on est en train de faire. Comme on a un robot qu'on a fait
un
avec
robot.
L'université. Oui, un robot pour briser l'isolement des aînés. C'est de la placotée, là. Il parle. Puis tellement qu'il parle que quand on est avec lui dans une salle, on a de la misère à passer à la porte. Vous comprenez?
Et puis c'est quoi? C'est avec l'intelligence artificielle? C'est des projets de genre?
Moi, j'ai fait ça. Ouais. Moi, écoute, quand que j'ai parti ce programme-là, ce projet-là dans ma tête en 2007, là, j'avais déjà... Tout ça était déjà dans mon plan.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, j'ai eu de l'argent d'un ministre. J'allais garder des années de temps. Je me suis dit, à un moment donné, m'envoie de quoi? Puis moi, je travaillais avec des gens, des bons partenaires, comme je vous le dis, avec Paradigme Stratégie dans le temps.
Mm-hmm.
Puis je lui ai parlé, bon, j'aimerais ça faire ça, un robot. Puis, ils m'ont présenté des gens de Ivado. Ivado, c'est un consortium interdisciplinaire, en tout cas intersectoriel, pour de l'intelligence artificielle.
D'accord.
Les autres, je t'annonce là, de la fondation de VMM Ivado, justement. Ça nous donne accès à 5 universités. Là, tu vois-tu la Polytechnique de Montréal, l'École des hautes études commerciales, l'Université de Laval et puis l'Université McGill. Ça, là, on a fait le robot avec deux universités, qui est Montréal et puis Sherbrooke, et puis Ivado. C'est un robot qui est amené à... toujours progresser. Là. Mais présentement, là, on a commencé par la parole.
Mm.
Puis la reconnaissance, qui voit éventuellement qu'il puisse dire si on lui parle sarcastiquement, si on a de la peine, si on, tu sais, il va détecter des choses. Mais présentement, il parle. Il placote. On a fait des tests là, avec aînés. Puis même des aînés ont tellement été impressionnés. Il y en a, ils ont fait des secrets. Ils ont dit des secrets.
Ah oui, puis il garde.
Oui, là, c'est une chose, comme je t'ai dit, lui, il y a le protocole là, pour tout ça. Là. Mais comme je t'ai dit, ils ont fait des confidences aux robots. D'autres ont parlé de santé. Tu sais, il y a toutes sortes de choses que... Puis aussi, c'est que ce robot-là, il est évolutif. Éventuellement, il va prendre tes signes vitaux. Il va pouvoir commander tes médicaments.
Ouais.
Prendre un rendez-vous chez le médecin. C'est beaucoup de choses qu'on voit là, avec l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est illimité. Donc, c'est ce qu'on fait là. Mais présentement, on a travaillé, on en a un qu'on va présenter prochainement à la ministre Bélanger. Là. On est en train de préparer une rencontre pour lui présenter.
Puis là, ce test-là, c'est à quel endroit vous testez ça?
Ça a été fait à Montréal, je me rappelle pas, je pense que c'est d'un endroit de un établissement du groupe Luc Maurice, je pense que ça a été fait. Puis elle a été présentée dernièrement à Dakar. J'ai parlé à la fille la semaine passée. Il va être encore en France. Puis là-bas, c'est parce que c'est un robot social. Hein. C'est pas comme un autre, c'est un robot industriel qui va faire des choses. C'est un peu plus compliqué que ça. Là. Mm-hmm. Mais les gens là-bas l'ont trouvé extraordinaire.
Ben, j'avais vu un organisme qu'on avait reçu au fil du temps qui faisait des robots sous la forme d'animaux domestiques.
Exact. Il y en a plusieurs, comme je vous dis. Mais nous autres, c'est concentré vraiment pour les aînés, là, présentement, puis briser leur isolement. Okay.
Bon, là, ça, c'est le robot, mais là, si on revient à nos jeunes, jeunes sont moins programmables. Donc, comment vous les formez?
Ben, nous autres, écoute, les jeunes reçoivent la formation Sony, qui est une formation d'environ une heure et demie, mm-hmm. qui se fait à distance, c'est virtuel. Donc, c'est ma collaboratrice qui donne les formations aussi. Et puis, un coup que les jeunes sont formés, nous autres, on envoie le nom là à l'établissement, près de chez lui, le plus près de chez lui. Puis, eux autres communiquent avec pour lui donner une date de départ. Là. Okay. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne.
Puis, qui vous soutient, Alain, au niveau financier?
Financièrement, écoute, dans les dernières années, c'était le secrétariat des aînés. Mm. Et puis, justement, on vient de remplir une demande là, pour un 2 ans là, avec, justement, eux autres, là, le secrétariat des aînés. Puis, écoute, là, j'ai la Fondation Saputo qui nous a donné 150 000 $ c'est pour 5 ans, c'est 30 000 par année. Mm-hmm. Donc, nous autres, c'est au minimum que ça coûte. Là, ça coûte pas cher.
Ouais.
Fait que donc, c'est pas des montants astronomiques qu'on a besoin. On a 30 000 $ On a demandé à d'autres pour des montants. Et puis, je vais avoir une annonce extraordinaire à faire les mois à venir. Au mois de février environ, déjà, là, on va pouvoir en parler, là, qui va régler justement cette affaire-là.
Quand vous dites régler cette affaire-là,
de financement. De financement. Là, on a trouvé. Nous autres, on travaille tout le temps avec des gens qui lèvent la main. Hein. Mm. Puis il y a quelqu'un, un organisme qui nous a appelé, qui nous a dit qu'il aimerait ça faire ça pour nous autres. Puis on est en train de mettre ça en marche. Mais comme je vous dis, déjà en février, on va avoir une idée de. Puis on va pouvoir vraiment là, de parler du partenariat qui est en train de se mettre en place.
Mais j'ai cru entendre là, qu'il y avait des possibilité de rapprochement avec une autre fondation?
Oui, exactement. Mmh. Comme tout à l'heure, je te disais, pour mettre moi là, mais que je sois le plus là, je voudrais que ça continue, cette direction.
Ouais.
Moi, j'ai une entente avec le CIUS de la capitale. Et puis, le CIUS de la capitale, eux autres font affaire avec une fondation qui s'appelle la Fondation Fait.
Mmh.
Donc, moi, j'ai rencontré ces gens-là. On a fait même un travail avec, ça s'appelle un organisme qui s'appelle Bénévole d'expertise, pour pouvoir fusionner les deux organismes pour que quand je vais partir, ça va pouvoir continuer. Fait qu'on est en train de faire ça aussi. Parce que c'est quelque chose que je veux qu'il reste. Puis je suis pas éternel. Là. Moi, à un moment donné, c'est sûr, il va falloir que je délaisse. Mais par contre, il faut que ça puisse continuer. Fait que je travaille pour ça, pour que ça puisse se faire. C'est dans le décor, là, présentement.
Bien, vous êtes motivé, enthousiaste, c'est beau à entendre. C'est exactement les héros anonymes qu'on cherche, Alain Desbiens. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et on poursuit la discussion.
Problème.
Merci. Retour au héros anonyme avec un héros anonyme vraiment touchant, Alain Desbiens, fondateur de la Fondation Sony, en mémoire de son fils qui tissait des liens étroits avec les personnes âgées. Donc, la Fondation crée des liens entre 1200 adolescents de 12 à 17 ans et je crois, Alain, qu'il y a près de 1640 aînés qui ont reçu la visite de jeunes.
C'est plus que ça.
Plus que ça, hein?
Oui, il y a 300 par CHSLD. On participe à peu près dans 240 quelques CHSLD.
Wow!
Fait que ça fait beaucoup de monde. Puis voyez-vous, la bonne nouvelle avec les jeunes, là, vous avez parlé du 1200 jeunes qui se sont inscrits. Oui, il n'y a pas de 1200 jeunes qui ont fait du bénévolat parce que certains y délaissent, d'autres se trouvent un job, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Mais par contre, il y en a à peu près 600, près de 650 en fait. Et puis, il y a des endroits qui sont même débordés.
Oui, c'est ça. Il y a 103 jeunes qui voulaient s'impliquer puis qui n'ont pas pu.
Ils n'ont pas pu être. Puis malgré cet endroit-là, c'était en Outaouais. Mm-hmm. Ils ont ouvert, eux autres, les RI, ouais. les maisons des aînés, maisons mm-hmm. des aînés alternatifs, les hôpitaux. Puis ils ont quand même eu trop de jeunes. Pareil, parce que les autres, il y avait déjà un programme qui marchait. Puis les jeunes ils ont recommencé dans notre organisation. Et puis on a eu d'autres. Fait que là, il y a eu 103 jeunes qui ont levé la main qui n'ont pas été capables d'être placés. Fait que nous autres, ce qu'on a vu là-dedans, c'est qu'on va ouvrir des RPA dans ce coin-là, des résidences pour aînés. Ça soit privé. Pour que les jeunes qui lèvent la main puissent au moins le faire du bénévolat.
Ah, parce que des personnes âgées isolées, il y en a partout au Québec.
C'est ça, exactement.
J'imagine qu'il y a d'autres organismes là, qui pourraient vous en référer.
Ben oui, ben écoute, nous autres, on appelle d'un endroit comme un RPA, puis on dit on aimerait ça vous envoyer des bénévoles, puis c'est gratis. Mm-hmm. C'est pas dur à vendre dans notre affaire. Là. Tu sais, comme je dis, c'est assez facile. Fait que nous autres, tout ce qu'on veut, c'est que le jeune qui lève la main qu'il soit capable d'aller faire du bénévolat. Je pense que c'est la norme. Puis on disait dans un RPA, c'est peut-être plus des gens qui sont plus autonomes. Mm-hmm. Mais malgré tout, c'est du bénévolat. Puis il y a beaucoup d'aînés dans RPA qui sont, genre, je m'entends parler beaucoup, qui sont seuls aussi. Là. Fait que, tu sais, je pense que si on va ouvrir ça pour que chaque jeune qui lève la main puisse avoir un endroit pour le faire, je pense que ça sera la norme. Au moins, je pense qu'il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit autrement. Puis voyez-vous, dans ces jeunes-là, ce qu'on a dénombré, parce que du départ, les Sony ont toujours été prédits comme étant la relève. Hein?
Mm-hmm. La relève.
Pour les gens de la santé, pour les gens en santé.
Oui, ah, OK, d'accord.
Fait que nous autres, ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est qu'on a fait des sondages. Puis on demande aux jeunes, est-ce qu'un métier de la santé t'intéresse? Et si oui, lequel? Puis toi, tu sais, cette année, on a 809 jeunes qui ont répondu qui sont intéressés à être plein de vie.
Donc, sur les 1200, on est à un 70% facile?
À peu près.
Oui.
Fait que moi, ben écoute, moi, je tire ma ligne à l'autre de temps en temps. Fait que j'ai envoyé ça au ministre. J'ai envoyé ça une couple de places. Fait que j'ai la Fédération des vétérans du traitier du Québec. Eux autres sont allés CHSLD déjà. Mais écoute, ils ont intérêt à ça. On s'est rencontrés, puis on a une prochaine rencontre là, qui va se faire le 15 novembre pour voir comment faire pour garder l'intérêt de ces jeunes-là, puis les amener à destination.
Bien, je comprends ce que vous faites. Là. Vous créez des liens à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur.
C'est peut-être ma force, tu sais, de ce côté-là. Fait que j'ai d'autres partenaires. J'ai la FIC aussi, que j'en ai parlé, qu'eux autres ont laissé la porte ouverte. Là.
Infirmière.
Oui, parce que on a besoin au Québec. Puis là, c'est des jeunes qui ont été faire du bénévolat, enlever la main, puis ils relèvent la main encore pour aller travailler. Je pense que c'est des candidats de qualité, comprenez-vous? C'est là que je veux aller. Puis moi, ça ne veut pas dire que ça va réussir, mais je parle si les gens alentour de moi le veulent bien m'aider, parce que tu sais, je ne ferai pas partie de la santé puis rien de ça. Mm-hmm. Je suis juste un citoyen qui aimerait bien faire, mais il semble que les gens alentour à qui j'ai parlé sont tous d'accord avec ce que je fais. Puis en ayant Ivado, justement, comme partenaire, ben on va créer une base de données qui va tout placer tout ça aux bonnes places, là. Parce qu'on a déjà parlé avec Ivado, puis on a une piste de solution déjà pour partir quelque chose, là, une base de données pour ça. Les médecins du pression avaient déjà quelque chose de préparé, mais ils ne l'avaient pas fait l'an passé, parce que, comme ils ont dit, eux autres aussi, ils veulent aller voir plus jeunes, tu sais, au secondaire, les jeunes. Mais ils ne savaient pas trop comment, tu sais, ils partaient que rien. Mais là, c'était avant, ils étaient arrivés avec ça. Puis on dit, sais-tu... On dirait qu'on va faire un bon mix. Là. Fait que c'est là que je suis. Là. Moi, tout ce que j'aimerais, c'est de pouvoir apporter une contribution.
Ben, vous le faites déjà. Hey, ben, Alain, oui, ça vous a jamais tenté, la politique?
Non, jamais ça. Non, du tout. C'est pas quelque chose. Moi, c'est du cœur. Je serais pas bon là, dans la politique, vraiment pas.
Ben, tu sais, il y a différentes façons de changer le monde. Vous le faites d'une façon extraordinaire.
C'est ça, exactement.
Et parce que j'entends là que ce sont des métiers dans la santé où il y a des pénuries. Donc, vous êtes en train déjà vous-même de faire du recrutement à l'avance.
Oui, oui, puis c'est des jeunes qui lèvent la main, qui sont prêts à ça, là. Fait que c'est, faut lui fournir des stages, des présentations avec des professionnels de la santé qui mm-hmm. viennent lui raconter le vie, là, puis ainsi de suite, puis le chemin qu'ils ont fait. Puis, c'est toutes sortes de choses qu'on peut organiser ensemble, mm-hmm. mais avec l'avenue de l'intelligence artificielle, de tout amalgamer ça, ça va être plus facile. Parce que c'est à plusieurs échelons, hein, ce projet-là. Puis ça, c'est pas demain matin, mais je parle, moi, si on le commence aujourd'hui, on va arriver à quelque chose, ça va, non?
Tellement.
C'est ça que je voudrais voir. Les gens semblent qu'ils sont d'accord avec moi, ils voient la même chose, tu sais, dans ce que j'ai vu.
Parce que là, vous parlez de base de données. On le sait que c'est avec des bonnes données qu'on alimente l'intelligence artificielle. Vous me parlez du robot. Est-ce que le robot, dans ce qu'il va capter, peut alimenter ces données-là?
Écoutez bien, le robot, justement, il va détecter qu'est-ce qui va stresser les aînés. Mm-hmm. C'est quoi? Par la base de données. De là, cette base de données-là va pouvoir servir aussi pour l'avenir, savoir comment, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui, tu sais. Fait que c'est là qu'on va arriver avec des grandes bases de données pour pouvoir analyser tout ça par des experts, mm-hmm. puis créer des choses à partir de là.
Vous allez peut-être avoir besoin de gens en éthique parce que l'affaire des secrets, là, les robots.
Mais quand je vous dis avec les universités, toutes ouais. les éthiques, ouais. c'est là, il n'y a aucun problème. Là, on travaille avec les bonnes personnes. Là. C'est là l'affaire. C'est, ça va pas vite parce que l'année passée, il y a eu un problème, justement. Il fallait régler l'éthique.
Ouais.
C'était
ouais.
long, mais ça a été réglé. Fait que cette année, on a une présentation à faire là, déjà.
Et dites-moi, est-ce que c'est de vous que votre fils tenait ce côté-là, créateur de liens, défenseur de portes?
Sonny, là, quand je vous dis tout le monde me connaissait, je pense que c'est là qu'on voit que... Soit que c'est lui qui retenait de moi, ou bien c'est qui m'a envoyé des ondes, un des deux.
Ouais. Ben, je pense que de plus jeune aussi, il a été, j'ai cru comprendre, là, il y avait de la famille au Mexique, donc peut-être une influence familiale.
Oui, il a rejoint son grand-père et sa grand-mère toutes les années à la semaine de relâche. Il a sorti de 6 ans quand il a eu le droit. Fait que quand il revenait, il y avait tout le temps plein de... Puis mon père avait 75 ans, fait que je veux pas, c'était tout des aînés. Il revenait avec des cadeaux, toutes sortes d'affaires des aînés. Puis il y en avait avec qui correspondait, puis ainsi de suite. Là. Tu sais, là, Sonny, c'est un petit gars bien sérieux. Sérieusement, de ce côté-là. Là.
Puis vous avez jamais parlé de ce qu'il faisait?
Non. Il allait pelleter chez sa première gardienne, Denise, sa gardienne.
Mais ben, voyons. Il allait comme ça de lui-même, là.
Non, mais là, on restait à 10 km de là. Il partait à pied. Il allait pelleter parce qu'il savait qu'elle avait divorcé avec son mari. Puis elle n'avait personne pour la déneiger. Fait qu'il allait à déneiger, puis revenait. Je savais pas. Il y a une mère de famille qui m'a raconté que son gars fait de la paralysie cérébrale. Mmh. Ben, Sonny, le samedi, il vient jouer avec. Tandis que les autres, il est de lui.
Wow.
Tu sais, là, comme je vous dis, c'est pas des grandes choses.
C'est assez pour
allumer, tu sais.
Fait qu'est-ce que... Justement, ces robots-là vont être des Sonny. D'ailleurs, comment il s'appelle, le robot? Est-ce qu'il s'appelle Sonny?
Il s'appelle Axel. C'est le deuxième prénom de Sonny.
Ah, d'accord.
Ouais.
Parce que ce sont des petits gestes, et c'est ça qui est merveilleux quand vous nous racontez ça, ce sont des petits gestes qui sont à notre portée, à tout le monde.
Exact.
Puis j'imagine que quand vous manquez peut-être d'énergie le matin, d'imaginer que Sonny a fait 10 km pour aller pelleter dans la tempête, ça
lève un gars.
Ça lève un gars.
Oui, il n'y a pas de problème.
Et... j'aurais tellement de choses à vous demander. Je suis vraiment fascinée un peu. Puis les parents de ces jeunes-là, j'imagine aussi que vous les touchez, veux pas. Est-ce que ça les inspire eux-mêmes à faire du bénévolat?
Ben écoute, il y a des parents qui en font avec leurs enfants. C'est arrivé. Mais écoute, moi, ce que je trouve de ces parents-là, moi, même que j'aimerais lui passer un message, lui dire merci, parce que vous savez que c'est eux autres qui nous prêtent les enfants. Tu sais, des enfants de 12 à 17 ans, là, si les parents veulent pas, on n'est plus là.
Oui, oui.
Comprenez que c'est un ensemble complet. Mais les parents sont rassurés parce que c'est les gens du CIUS, tu sais.
Oui.
C'est tout un ensemble,
oui,
vraiment.
Oui, c'est ça. C'est encadré.
C'est bien monté, là, mettons.
C'est encadré.
C'est ça. Les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes. S'il y a quelque chose, ils ont des références, tu sais, là.
Et puis j'ai envie de dire, Alain, on entend ça puis on se dit c'est merveilleux. Mais est-ce que ces jeunes-là, ils vont voir leurs propres grands-parents?
Ben moi ce que j'entends, c'est oui.
Oui.
Parce que j'ai fait des soirées, des affaires d'horreur, comme quand on avait fait avec Rosalie Veillancourt, une soirée de reconnaissance pour les jeunes. Mm-hmm. Les jeunes de partout au Québec qui sont venus. Tu sais, j'ai eu le temps de parler avec eux autres. Il y en avait qui avaient le grand-père, justement, avec eux autres.
Parce que c'est pas toujours facile là, pour un grand-parent de réussir à rester dans la vie de ses petits-enfants.
Non, c'est ça. Hein. Sonia était bien proche de ses grands-parents. Gilles, mon père, le gardait toutes les semaines. Il l'amenait au Club Price. Tellement que quand j'allais au Club Price avec Sonia, tout le monde connaissait Sonia, moi, je ne connaissais pas. Il disait salut à Sonia, tout le monde disait salut à Sonia, moi, je suis comme invisible là-dedans.
Donc, il a vraiment laissé sa trace partout. Bien, je vous comprends de vouloir perpétuer sa mémoire, que ça continue au-delà...
Ben écoute, c'est un privilège ce que j'ai là. Tu sais, d'avoir fait ça, moi c'était, tu sais là, moi c'est, tu sais, l'année que j'avais demandé au ministre de l'argent quand j'ai eu le 1,7 million là.
1,7 million.
J'avais demandé 55 000 piastres, moi. Puis le ministre Barrette de l'époque m'a fait venir dans un consortium à Québec. Je te dis, il doit y avoir peut-être 500 personnes pour des
acteurs. Symposium, sûrement.
Oui. Puis il m'a fait monter en avant, puis il m'a annoncé ça, qu'il me donnait 1,7 million pour mettre ça partout au Québec. Écoute, c'était pas évident, là. Tu sais, je n'étais pas une grosse équipe, là. C'était une idée que j'avais. Mais j'ai été chercher des bons partenaires, puis je pense que j'étais un gars qui s'exprime assez bien, que les gens ont compris ce que je voulais, puis je pense que je parle assez bien du cœur.
Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Alain Desbiens, fondateur, Fondation Sony. J'invite nos auditeurs à être à l'écoute de tout ce que vous allez faire, à vous aider à perpétuer la mémoire de Sony. C'est clair, moi, que je vais vous suivre. Je suis bien intéressée à ce que vous faites. C'est merveilleux. Et j'en profite pour remercier toute notre équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté. Et il y a tous nos épisodes sur les plateformes de Balado Diffusion. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et la semaine prochaine, on découvre d'autres héros anonymes.